Et comme ça se fait souvent, à la fin d'un workshop, on nous propose de faire une adresse publique. Moi, j'avais l'intuition de mettre des gens à l'arrière d'un véhicule en mouvement et de pouvoir comme ça cadrer le paysage un peu à la manière d'un travelling arrière et de pouvoir jouer avec un côté comme ça un peu divinatoire. En fait, en avançant, on peut voir ce qui va apparaître dans le cadre des spectateurs, spectatrices, quelques secondes avant eux. Et donc, du coup, de pouvoir jouer sur ce fait que, par exemple, si on va croiser une grand-mère, eh bien, on va pouvoir dire « Et là, une grand-mère », et paf, ça va apparaître dans le cadre. Quoi. Ça, c'était une première intuition. Et du coup, Olga, qui partageait cette même formation avec moi, dans cette marche, a trouvé un livre dans une boîte à livres. Et elle a commencé à le caviarder, c'est-à-dire à barrer un certain nombre de phrases, de mots sur ce texte pour créer un texte à partir d'un texte existant. Et en discutant ensemble, on s'est dit, mais en fait, il faudrait peut-être mettre ensemble ces deux recherches, ces deux projets. Et c'est comme ça que le prologue de Paysage caviardé est né.
Très bien.
Donc en effet, vous avez proposé un road trip chorégraphique dans les paysages de Combourg à bord de ce van aménagé. Pour le rappeler, c'est aussi une résidence qui entre dans le cadre d'un projet plus vaste porté par le réseau Nos lieux communs, dont fait partie Figure Project. Et donc finalement, comment se sont passées les différentes traversées vendredi et samedi, donc ces deux premiers jours de festival? Et par ailleurs, quels aspects du paysage de Combourg avez-vous prélevé pour nourrir l'écriture de ce nouvel opus?
Du coup, nous, on passe 15 jours dans un endroit à chaque fois, avec nos yeux et nos oreilles bien, bien ouverts. Et on a un protocole d'écriture qui est toujours le même, mais qui nous permet, en fait, lui, il est assez cadré, et il nous permet de faire énormément de rencontres. Et ces rencontres-là, en fait, vont nourrir l'écriture, qui est différente à chaque fois. Voilà, on s'est baladé dans Combourg, on a rencontré des coiffeurs, on a rencontré des gens qui font du pain, des agriculteurs, des agricultrices. On a repéré un trajet, on est passé de la place Piquette au parking suspendu du supermarché pour partir au loin dans les champs. Les deux premières représentations, les deux premiers jours de représentation ont eu lieu quand même après trois jours de répétition, déjà avec des personnes à l'arrière du camion. Et ces jours de répétition depuis le mardi nous permettent d'affiner l'écriture et permettent en fait que le texte et la danse qui sont écrits pendant une semaine viennent se mouler et se fondre dans les rues, quoi. Voilà. Et dans les paysages. Et ces deux jours de festival.
Oui, était d'une certaine manière dans la continuité de ce qui est en fait comme un mini processus de création un peu resserré en deux semaines, quoi. Au début, on arrive, on crée. Puis après, il y a un premier crash test, un premier test, puis comme des sorties de résidence, on accueille les retours, puis comme une avant-première, puis une première. Et puis voilà, hier, c'était la dernière de ce chapitre, le chapitre 4 à Combourg.
Il y a quelque chose de très cinématographique dans la proposition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les expériences que vous voulez partager, enfin, vous voulez faire vivre aux gens qui peuvent justement assister à ces différentes représentations?
Oui, en fait, du coup, il y a un jeu. En fait, au début, tu parlais de caviarder, mm-hmm. ce rapport au caviardage. Donc, pour nous, il est à plusieurs endroits. Il est à l'endroit déjà de ce protocole qu'on met en place, où à chaque fois, le premier jour, quand on arrive quelque part, on cherche une boîte à livres et on extrait un livre de cette boîte à livres et on va commencer à le caviarder. Et donc, ça, c'est un premier niveau de texte. Ensuite, on cherche quelqu'une qui s'appelle Gabriel. Gabriel, c'est le personnage central de cette histoire. Et en fait, ensuite, on va écrire par rapport au trajet, on va écrire par rapport au retour, par rapport aux rencontres. Mais on va surtout laisser des trous dans notre écriture. on va caviarder la composition pour que le réel, l'imaginaire des spectateurs, spectatrices, puisse du coup à chaque fois venir se poser dans chacune des expériences qui va être à chaque fois unique, chaque traversée, va comme ça fonctionner un peu telle une archive sensible du moment qu'on a passé.
Et ouais, autant pour les personnes qui ne connaissent pas l'endroit, le terrain dans lequel on travaille, que pour les personnes qui le connaissent très 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 bien. En fait, le fait d'avoir l'expérience de regarder à l'arrière, par l'arrière et de reculer, et d'avoir vraiment un point de vue cadré, ça permet de vraiment avoir la sensation que chaque chose qui se passe en face de nous... et de l'ordre de la fiction, quoi. Mmh.
Disons-le, le dispositif, c'est d'entrer dans un van, et nous sommes assis vers l'arrière du camion, et avec une vitre teintée, nous voyons tout le paysage défiler. C'est bien ça. Alors, comment est né ce dispositif?
On a créé un petit gradinage. on a obstrué avec des calques les fenêtres sur les côtés pour vraiment créer cette focale. Et après, du coup, voilà, c'est un peu à la manière presque d'un corps caméra. Comment est-ce qu'on construit en fait une dramaturgie en lien avec le texte? Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a une narration en direct avec des éléments présents, des éléments absents. Enfin, il y a quelque chose qui se raconte, qui se joue à la fois au présent et en même temps au passé, dans le sens qui résonne avec toutes les rencontres et l'écriture qui s'est faite pendant la résidence. Donc voilà, c'est un peu cette habitude-là, nous aussi, face à des écrans, de, à un moment donné, voir un paysage en mouvement, avoir une narration, fait que, même si on est au réel, on engage notre corps et notre réception dans une expérience effectivement très cinématographique et même cinétique, parce que pour ceux qui l'ont vécu, il y a un moment où il y a cette espèce d'effet d'accoutumance du corps humain qui, à force de regarder un paysage défiler en arrière, quand le véhicule s'arrête, on continue à voir le paysage avancer.
Vous définissez votre projet donc comme une chorégraphie située et en particulier comme un road trip chorégraphique. En quelques mots, pouvez-vous nous raconter comment est née cette idée?
Comme je disais, l'idée elle est née de cette sortie de workshop. Et après, ce qui s'est fait, c'est que on a eu envie de le continuer, en fait, tout simplement. Que le premier personnage dans le livre Caviardé s'appelait Gabriel, et on s'est dit, essayons de continuer l'histoire, chapitre après chapitre, réécriture après réécriture, et voilà. C'est un peu comme ça qu'est née cette idée. Et bien sûr, ça a été avec l'appel à projet Nos lieux communs, qui du coup a donné comme ça, d'un coup, 5 chapitres, donc qui nous a largement soutenus. Parce que c'est ça, le chapitre 4 est à Combourg, mais ce qu'on peut dire, c'est que le chapitre 1 a eu lieu à Clermont-Ferrand, le chapitre 2 à Aubenas, en Ardèche, le chapitre 3 à Falaise, en Normandie, et le chapitre 5, dont l'écriture va commencer dès demain, sera à Versailles, au niveau du Potager du Roi.
Donc, Paysage Caviardé existe aussi ou existera sous la forme d'un podcast. En quelques mots, pouvez-vous nous le présenter?
Du coup, il y a encore une histoire de caviardage là-dedans. Il y a eu les personnes qui ont pu vivre un chapitre, voire deux, vraiment en expérience vécue de spectateur-spectatrice, avec le camion en mouvement, le paysage qui défile. On a eu envie de... Comme c'est quand même une forme très intime qui ne peut pas être partagée à énormément de personnes, on avait envie de continuer ce processus de caviardage et donc de soustraire une première expérience, qui est l'expérience vécue du spectacle, pour juste laisser une expérience sonore. Avec la voix et des ambiances sonores, donc il y aura moyen d'écouter tous les chapitres. Peut-être qu'on donnera des petites consignes, que par exemple le chapitre 3, on peut ne l'écouter qu'après une averse, ou qu'en regardant à travers une toute petite vitre de 5 cm, j'en sais rien. On donnera des consignes un peu comme ça. Et voilà. la dernière chose ensuite sera juste d'avoir les textes et regrouper dans un livre, et chaque livre Paysage Caviardé, on ira le remettre dans les boîtes à livres desquelles on a extrait le tout premier livre Caviardé. Voilà.
Très bien. On va en écouter un extrait. Vous nous avez fait le plaisir de nous transmettre un paysage caviardé, donc à Combourg, un extrait du chapitre 4, pour le coup, que l'on va écouter tout de suite. Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9.
Pour un brin d'amour, Gabi a bifurqué. Parvenue au sommet d'une des tours du château, elle a ouvert les yeux sur les vies derrière les portes. Derrière les murs de la rue des Champs, de jeunes hommes glissent leurs mains dans des tondeuses à gazon. Gabi a eu plusieurs vies. Elle a dérouté ses vœux et son prénom. Par amour pour l'homme qui marche et lit des histoires à celle qui a perdu la vue. Bifurquer par amour, bifurquer pour des fresques, bifurquer pour du pain. Les routes, comme autant de vies à explorer, et les voitures, comme les créatures que l'on nourrit pour nous y emmener. Blanche encore. Sous le couloir aérien des avions de chasse, on ne voit plus les écureuils. Le retour d'Ulysse transformé en chienne noire. Une petite lumière qui réchauffe le cœur et de la confiture de fraises du jardin. Derrière les grosses fleurs bleues, de petits vitraux bleus, dans le fond d'un garage en bois. Par ici, il y a un homme qui voit des sapins dans les trous du sol. C'est le petit Louis. Dépassement.
Voilà, c'était un extrait du paysage caviardé d'Olga Matet et de Pierre-Benjamin Nantel que vous avez joué durant toute cette semaine à Combourg. Dont on aura peut-être l'occasion d'entendre la suite sur les ondes d'Univers 99.9. Merci
à
vous.
Avec grand plaisir.
Et nous passons avec au second spectacle, un spectacle intitulé Mirliton, avec François Chéniaud. Bonjour à vous, François. Et Émeric Hainaut. Bonjour.
Bonjour.
Émeric Hainaut, vous dessinez, vous écrivez de la poésie et vous pratiquez le human beatbox, qui constitue votre pratique la plus puissante parce qu'immédiate. François Chéniaud, vous engagez vos créations à partir de rencontres qui hybrident les pratiques, chant, répertoire musical, médiéval ou baroque, danse urbaine ou art sacré, je me trompe ou pas ?
Non, entre autres.
Entre autres. De votre rencontre naît Mirliton, ce spectacle que vous venez de jouer dans les jardins du château de la Balue. Vous sortez de scène, un espace espiègle d'écoute et de défi entre vous deux, de jeu. Mirliton, c'est une sorte de sifflet pour enfants. C'est cela, un mirliton, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout simplement pourquoi ce titre, Mirliton, à votre pièce ? Qui se lance ? C'est une question très simple.
Allez François, explique-le.
Mirliton, personne ne sait bien ce que ça veut dire, mirliton.
Effectivement,
en fait.
Il y a
et
beaucoup de définitions.
C'est ça qui nous a plu, mirliton tonton, mirliton tontaine, c'est devenu... C'est devenu assez vite... En fait, apparemment, les étymologistes disent que le mirliton, fin 17e, ça a été une coiffure des femmes très élégantes qui faisaient des coiffures extravagantes, qui avaient la forme de navire, qui prenaient des proportions extrêmes. D'accord. Et donc, ça s'appelait mirliton. Et après, par un peu ironie, mirliton est devenu un mot un peu valise qui permet de nommer une chose un peu cheap, mais qui se croit cosmique, qui se prend pour plus. Et après, c'est un mot qui est devenu, qui est devenu très, très, très polysémique, mais qui a aussi beaucoup. Enfin, au 19e, on a commencé à trouver des fanfares ou des orchestres de mirlitons qui jouaient avec cette espèce de membrane qui, en fait, dans laquelle on chante. Et qui transforme la voix comme un proto-vocodeur un peu. D'accord. Et qui pareil en fait est à la fois une pratique modeste on va dire, mais tout modeste soit-elle, elle vise en fait à produire quelque chose, à transformer, à produire un effet. Mmh. Et puis après mirliton effectivement c'est devenu aussi des pièces de monnaie, c'est devenu des fruits dans certaines, enfin au Canada un mirliton c'est un fruit, c'est devenu des gâteaux, des choux à la crème, mille choses, et donc ça nous a plu. Et par ailleurs mirliton, moi je connaissais mirliton pour la danse des mirlitons dans Casse-Noisette, c'est-à-dire qu'un mirliton c'est aussi un chapeau de soldat. Et pour un danseur, la danse des mirlitons, c'est très connu. Et ça nous plaisait que ce nom puisse à la fois désigner une chose et un être, et circuler entre les siècles, et circuler entre les niveaux de culture, et soit très polysémique, et quand même une chose à la fois modeste, et en même temps d'une ambition illimitée.
Et c'est très mignon.
Et c'est très mignon.
Le mot mirliton.
Oui, effectivement.
Extrêmement mignon.
Mirliton donc, se situe à la fois à l'endroit de la joute, du duel, du rituel, de la pastorale. Comment est née cette partition et par quoi est-elle portée ?
Je crois que si François et moi on s'est rencontrés, c'est qu'on a... Il me semble que notre point commun, il est d'attraper les choses de la vie, de saisir l'art, de le manger, de le digérer. On a envie de toucher de la beauté d'une manière directe, puissante, sans aucun effet. Et... Ce temps qu'on s'est accordé pour que nos pratiques se rencontrent. Mmh. Donc, lui, la danse, moi, le beatbox, mais on va quand même pas réduire les choses à ce niveau-là. Le beatboxeur, le danseur, il nous semble, en fait, tous les deux, on danse, tous les deux, on fait de la musique, tous les deux, on construit du son, des formes. Mmh. Et... coûte que coûte, on essaie d'accéder à quelque chose de beau, de fort. Et par des médias hyper simples.
Oui.
Voilà.
Le
leitmotiv en fait, qui nous a unis réellement, c'est la rythmique à 7 temps. Donc c'est devenu le fil rouge de toute notre rencontre. On a écrit ça sur quasiment 2 ans et demi, quoi. Juillet 2020, octobre 2023, avec des grands trous des fois, mais grosso modo c'est...
Comment avez-vous travaillé justement à deux? Comment se construit un spectacle aussi intense, physique, dense et en même temps aussi très beau. Comment l'avez-vous construit ?
Mais il y a, c'est marrant parce que dans un sens, c'est hyper écrit, mm-hmm. et dans un sens, on a juste laissé les choses se faire. On s'est pas dit, toi tu vas faire ça. On a juste pris un grand temps pour se rencontrer. Et l'un et l'autre, on aime ce que fait et l'un et l'autre. Et on a laissé les choses se faire. On se rencontrait. Il y en avait un qui arrivait avec une petite étincelle. Puis ça germait chez l'autre. On a travaillé de... Et on avait quand même cette fameuse Sarah Chaumette qui nous a vraiment aidé sur l'écriture.
D'accord.
C'est donc une comédienne qui nous a... voilà, qui a un œil de lynx et incroyable et qui disait ça va pas. Ça c'était vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Ouais.
François.
Oui. Ce qui a permis d'organiser le travail, c'est deux prémices très claires. Donc la première était, il n'y aura pas le beatboxer et le danseur. Donc en fait, on est tous les deux dans l'espace à produire des événements visuels et sonores. Et l'autre, c'était, OK, on se donne le défi de faire des rythmes à 7 temps. Comme ça, on est l'un et l'autre aussi vierge, aussi ignorant, aussi en difficulté. Et donc, ça a aussi permis, de manière très, très concrète, de commencer par se dire, OK, c'est quoi le rythme à 7 temps qu'on arrive à faire et répéter? Et ça a donné le premier morceau avec les bâtons, le fracas. Et en fait, ensuite, ça nous a permis de dessiner, en fait, on va dire, des rythmiques ou des types de modalités de jeu par rapport à cette contrainte qui ont dessiné un peu comme des grandes zones ou comme des morceaux, on pourrait dire. Et de ces morceaux, ensuite, a pu s'articuler un parcours. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'a énormément aidé à rencontrer Aymeric, d'avoir ces deux prémices et d'avoir quand même ce truc à 7 temps qui était... Voilà, on s'est donné ce handicap, on va dire, mais qui en même temps était tellement concret et tellement mobilisant, qui permettait quand même d'éviter de... Parce qu'on peut adorer un artiste, puis se retrouver dans un studio, et puis vraiment pas savoir par quel bout se rencontrer. Et c'est vrai que ce 7 temps nous a permis ça. Mmh. Et autre chose... On voulait que ce soit brut, simple, circulaire, etc. Mais on pensait aussi que si on faisait... On avait aussi ce désir de faire du son, quoi, faire du bruit, et de créer aussi des moments qui seraient comme l'envers. Et donc, on passait beaucoup de temps à trouver la manière de réussir à faire du sapateos et du beatbox à 7 temps. Et quand on n'en pouvait plus, on s'allongeait et on essayait de créer des harmonies ou des polyphonies en voix de tête. Mmh. Et donc, il y avait tout aussi ce qui nous a permis un peu après de sculpter entre le silence et le fracas, entre la percussion et la vocalité, et voilà.
Margot.
C'était une sorte d'évidence dans des formes hyper sonores, hyper fracassantes. C'était une évidence de fragmenter tout ça, de fragmenter le concert, on peut dire ça. Hein. Par du silence, par des choses ultra infimes qui viennent faire donner un sens à tout ce qui vient de se passer et ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer après.
Donc aujourd'hui au Château de la Balue, Mirliton apparaît dans un nouveau contexte. C'est la première fois que vous le jouez au grand air.
Non. C'est la troisième ou quatrième fois.
En tout cas, voilà, là, c'est aussi l'occasion, l'invitation de se nourrir et de s'imprégner de ce bois de bouleau donc, qui vous a accueilli. Comment envisagez-vous le rapport in situ, spécifiquement à cet endroit? Et en quoi le lien au paysage peut-il, selon vous, créer une autre relation à la représentation?
Je commence. C'est vrai que pour moi, cette pièce, elle m'est très chère aussi parce que souvent, les pièces, il y a, on pourrait dire, un ratio qui, entre la pratique et les enjeux de représentation, on va dire, entre la pratique et l'esthétique. Ou, souvent, le ratio est très favorable à l'esthétique, c'est-à-dire on fait des spectacles et puis on oublie un peu la pratique pour que ça rentre bien, faire une image, faire ci, faire ça. Et cette pièce, en fait, la pratique, le fait de faire en direct est bien plus important que les éventuelles images auxquelles on pourrait être accroché. Et du coup, ça nous rend très, très... Je sais pas, ça nous rend la vie assez facile, à vrai dire, parce que tout devient un cadeau, tout devient possible. En fait, c'est une pièce qui peut... Ouais, qui peut dialoguer, en fait, avec beaucoup de contexte. Et là, pour moi, c'était assez miraculeux que les moments de silence, justement, en fait, on se rend compte que... On le sait que le silence n'existe pas et... Mais là, c'était si beau que ce soit un silence traversé de tous ces chants d'oiseaux et voilà. Et donc pour moi, c'était trop bien. Je sais pas, c'est super.
Décrivons aussi sur scène. Vous êtes sur scène sur un plateau avec un mur d'enceinte. C'est un spectacle très sonnant. En fait, c'est la danse qui crée de la musique. Plus que la musique fait danser,
c'est
là,
vraiment,
c'est les deux choses, les deux mouvements en même temps.
Ouais, même si dans l'écriture, on a quand même enregistré en audio une grande partie. C'est-à-dire qu'on s'amusait, on bricolait. Et ça, c'était enregistré. Et le soir, on écoutait ça à l'affût de « Ah tiens, ça, ça marche, t'entends ?» Là, par contre, ouais, c'est un peu désorganisé.
Donc, c'était à l'oreille,
ouais,
notamment
voilà, c'était audio. Et l'image, bien entendu, elle est importante. Mais l'image, en premier lieu, venait... on s'en est préoccupé un peu plus tard, en fait.
Est-ce que vous pourriez nous décrire aussi les personnages ? Est-ce que ce sont des personnages que vous jouez ? À un moment, j'ai pensé à Pan, le dieu Pan, quelque chose de l'ordre des faunes. Voilà. Est-ce qu'il y a un récit, on pourrait le dire comme ça, avec des personnages, oui. Est-ce que c'est juste ou pas ? Vous avez, François, des costumes que vous métamorphosez aussi au fur et à mesure de la pièce, et Aymeric aussi.
Ouais, les costumes sont importants. C'est une artiste qui s'appelle Sari Brunel qui nous a fait cette côte de maille qui pèse 8 kilos de pins et qui a fait ce petit crop top manche pins pour François. Elle a également fait tous nos costumes, pantalons, vestes, gilets. Et c'est vrai qu'au gré des mirlitons, c'était le 65e aujourd'hui, je pense qu'en fait, ces costumes dessinent eux aussi l'histoire. Parce que ceux qui ont peut-être vu la première... En octobre 2023 et qui ont vu ce qui se passait aujourd'hui, il y a quand même une sacrée, je dirais pas évolution, mais il y a des gros changements. Et nos corps vont dans des endroits différents, même si en fait toutes les formes sont écrites. En fait, nous on sait où on va, et pourtant tout est d'une manière, tout est très très élastique. Et je pense qu'en effet, les costumes doivent secrètement nous guider sur nos gestes, et notre rapport l'un à l'autre.
François ?
Oui, en revanche, le mot de personnage me semble vraiment pas approprié, justement parce que ce qui compte, c'est de tenir le rythme, ou ce qui compte, c'est de travailler avec des éléments très fondamentaux. Même au début, ce qui compte, c'est pas que Aymeric joue aux morts ou joue au Patrocle, décédé. C'est plutôt de travailler à son inertie. Et puis moi, je travaille à avoir à comprendre combien il pèse, à comprendre ce que va faire telle ou telle chose. Et donc, à nouveau, on n'essaye pas d'incarner des personnages. En revanche, c'est vrai que les costumes sont des éléments importants. Il y avait aussi, dès le départ, en fait, des éléments sonores, notamment les cloches ou la confrontation de mondes sonores qui pourraient sembler éloignés ou incompatibles, qui, du coup, en s'associant, en s'hybridant, ont évidemment un pouvoir évocateur ou fictionnel. Et l'autre chose, c'est que toute la pièce, elle est en 7 temps, donc on a eu très vite marre de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc on a écrit entre nous des heptasyllabes, et donc qui sont des vers à 7 pieds, et effectivement qui sont à vendre juste derrière. Mais c'est pas pour ça que je le dis, c'est parce qu'en fait, il y a eu toute cette pratique poétique et expressive, et aussi, Aymeric est un très très grand lecteur, et du coup, il y a eu aussi beaucoup de conversations sur des lectures, et il y a eu un roman de Giono, Deux cavaliers de l'orage, encore un heptasyllabe, et qui... et donc toutes ces dimensions-là, en fait, elles sont là, elles sont sourdes derrière, et je crois qu'on a une sensibilité romanesque, mais vraiment, pour nous, c'était très clair que c'était notre art et notre travail est très concret. Et si des mondes, des fictions, des poèmes surgissent, en fait, ils suintent plus qu'on ne les produit.
D'accord. Margot.
Vous expérimentez les relations qu'entretiennent le souffle, l'air, les pieds, les muscles. Ainsi, un rapport au corps engagé et puissant est au cœur de ce rituel naissant. La voix, les frappes de pied, le souffle encore constituent la matière sonore de cette joute. En quelques mots, quelle tradition musicale et de danse dans l'histoire de la chorégraphie nourrissent et irriguent ce travail ?
Je pense qu'il y a, au fond de moi, il y a mille et une influences là-dedans. Je ne vais pas faire des listes de musique ou de groupes. Mais il y a toujours cette chose hyper importante de... C'est un peu comme s'il y avait une sorte de fermeture éclair dans le ciel. Et puis on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a derrière. C'est... Moi, je viens d'une musique hyper brute. Dans tous les groupes dans lesquels j'agis, je travaille comme ça, avec une espèce d'urgence et de choses hyper brutes. C'est vrai qu'avec Merliton, ce qui est chouette, c'est dès le départ, on a été catégorique. On n'aurait aucun effet. Il n'y aurait pas de pédale de boucle, de pédale d'écho, de pédale d'effet, de choses. Et ça nous a contraints, avec cette histoire du 7 temps. On était dans des... complètement sortis de nos zones de confort. Et ça nous a ramenés à quelque chose d'assez primaire. Et j'étais heureux de toucher ça, parce que ça fait longtemps que dans ma vie, je souhaitais accéder à ça, à travers mon art. Et via Mirliton, j'y arrive.
Très bien.
Pour finir, oui. On entend au sein de cette pièce cette phrase « Qu'est-ce qui meurt et danse encore ?» que vous répétez, comme ça, comme une sorte de litanie. Je me permets de vous la poser en miroir. Qu'est-ce qui meurt aujourd'hui et danse encore ?
Mais juste encore pour les histoires d'influence et de musique, y a quand même des choses aussi... dans mon cœur, il y a quand même des choses bien industrielles et hyper dub, avec des énormes basses et des trucs comme ça. Et je sais que François, il kiffe bien ça aussi. Et... je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait. Même s'il y a des chants occitans en voix de tête hyper élégants, hyper beaux, hyper tout petits, ils ont leur place et ils sont hauts. Voilà, musique indus ou musique occitane, même combat. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, la musique est hyper présente. Voilà.
Très bien. Merci, François.
Juste après, tu avais enchaîné, je t'ai coupé sur une question. Et...
Qu'est-ce qui meurt et danse encore ?
Ah oui.
Après, on fait la pièce pour ne pas avoir à donner une réponse, on va dire. Mais c'est vrai que cette phrase qui est un peu comme une devinette d'enfant, surtout, on ne va pas plomber l'ambiance, mais bon, quand on ouvre les actualités... surtout aujourd'hui, on va dire, et... Je sais pas, ça me touche. Je sais pas, c'est une phrase qui, en vrai, la réponse dans le recueil pour Contine, c'est les feuilles d'arbres et qui meurent et qui dansent dans ce vol de la feuille morte. Mais en fait, je sais pas moi, selon ce qu'on accentue, qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui danse, je sais pas. Pour moi, c'est à la fois. Je trouve que ça nous relie au moins en cœur et en sensibilité au reste du monde. À la fois aussi, c'est... Et puis pour moi, ça met l'éclairage sur à la fois la vanité, ou pas la vanité, mais bon, le côté dérisoire de nos gestes, et en même temps, en tant qu'ils sont dérisoires, et si, surtout là, on était en plein air un peu cosmique, Je sais pas, moi, il s'adresse un peu à une chose d'humanité, on va dire, quand même.
Cette phrase, on est tombé dessus sur un recueil de poésie ancienne, populaire, française. Et il y avait tout un poème comme ça, en heptasyllabes. Et on était en plein dedans. Et par hasard, nos yeux se sont posés dessus. Et par hasard, il y a eu cette phrase. Et c'est une sorte d'évidence de la garder.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
François Chéniaud, Aymeric Hainaut, pour cet entretien et par ailleurs ce spectacle que vous avez donné il y a maintenant une demi-heure, on peut le dire une heure, dans le jardin du château de la Balue à Bazouges-la-Pérouse. Et voilà ce spectacle Mirliton. Et puis nous abordons ce spectacle Dioscure que l'on a pu voir hier à Combourg dans le jardin de l'hôtel du Château avec Eben, Thibaut Michel et Nicolas Cadet. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Un Dioscure, donc un spectacle de Marta Izquierdo Muñoz. Dioscure, c'est une figure, des figures mythologiques, des jumeaux dans la mythologie romaine notamment. Voilà, les frères jumeaux, Castor et Pollux. On parlait de mythologie tout à l'heure, qui émergeait tout simplement du spectacle et de la danse en tant que telle. Comment a été créé ce spectacle? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Est-ce que c'est parti justement de ce mythe-là ou, voilà.
Alors, comment expliquer ça? Alors, le travail de Martha se fait autour de deux rencontres aussi. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'elle a rencontré Mina, qui était à la base la première interprète avec moi. Et grâce à notre rencontre avec Martha et nos points communs et nos différences, elle a voulu créer un spectacle autour de nos personnalités. Et elle a également voulu travailler sur la gémellité. Donc elle nous a confrontés. Et ensemble, on a travaillé sur ce qui nous reliait, sur tout ce qui nous reliait, que ce soit des passions ou des choses moins profondes, mais tout ce qui nous reliait et tout ce qui nous différenciait. Mmh. Et donc Dioscure est né. Je sais pas si tu veux.
Oui, Nicolas, non, Martha est donc elle est pas là, donc moi je la remplace. On a créé la compagnie ensemble. Martha est madrilène d'origine et elle y retourne souvent et donc elle a rencontré Mina à Madrid et elle travaille à Toulouse et là où elle a rencontré Eben. Et à un moment où elle avait fait plusieurs pièces de groupe sur des communautés féminines, elle cherchait à passer un petit peu à autre chose entre deux projets. Et puis il y a cette idée de Mina comme Eben ont des statures assez imposantes et comme un peu ils sont très jeunes, ils sont très beaux ou très belles. Et puis cette idée, c'était mais finalement ces deux jumeaux qui sont des deux comtés de la frontière et qui l'incarnent un petit peu. Donc c'est une sorte d'autoportrait aussi complètement décalé.
Absolument.
Qui passe par le viatique des personnalités de Mina qui est remplacée aujourd'hui par Thibaut. Mmh. et de Eben. Voilà, donc c'est une façon extrêmement décalée, parce que Martha travaille beaucoup sur le décalage, d'incarner à la fois un autoportrait, un biportrait, et puis cette idée aussi de travailler sur les choses très organiques, et là de travailler un petit peu sur les choses symétriques, d'interroger comment, voilà, c'est une façon d'incarner la frontière aussi pour elle, parce qu'on fait beaucoup de projets transfrontaliers, d'une France et Espagne, et c'est une façon de sur la communication invisible, et sur comment se sentir dans des territoires en étant ailleurs, et évidemment comment lier des choses. Voilà.
Margot.
Ce spectacle questionne la figure donc masculine de la mythologie, le Dioscure, et plus largement les stéréotypes associés, tels le poids, la force physique, les notions de violence, de compétition, de duel. Comment la relation s'est-elle construite à l'endroit de la danse, du corps et de l'interprétation?
La danse, elle s'est construite autour de plusieurs jeux. Avec Martha, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. On a mélangé nos univers et on a essayé de voir où ça allait. On a fait plein de... Des, hein, ouais, 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 des sortes d'impro où on devait en fait se laisser vivre, en tout cas au début, dans la création du spectacle. Et au fur et à mesure, elle affinait, elle modifiait, elle essayait de nous mettre en lien. Je sais pas comment dire autrement.
Ouais, moi j'ai pas participé à la création, donc j'ai eu accès à au langage de la pièce directement par le biais des pratiques que Martha a mis en place pour la création, qui étaient des outils justement qui venaient de la culture drag. Donc on avait beaucoup de lip-sync, d'impro autour du lip-sync, et il y a tout un langage aussi qui s'est élaboré sur rendre la relation un peu magique. Et donc, on s'est inspiré de ce rapport-là à la communication verbale, mais sans son, pour essayer de communiquer. Et comment, une fois qu'on a passé ce premier stade, comment sans le son, comment sans la communication orale, sans son, cela passe par le corps. Ça, on a aussi travaillé du coup beaucoup en miroir, l'un de l'autre, en improvisation. Après, par le contact aussi, parce que y a une grosse partie en contact dans la troisième partie de la pièce. Voilà.
On a également eu la chance de pouvoir travailler avec des vrais jumeaux. Donc, parce que du coup, on se disait qu'il y avait forcément un lien entre des vrais jumeaux. Quel était ce langage qui est partagé ensemble? Donc, ça a beaucoup apporté à la pièce, à notre façon de communiquer, comme disait Thibaut, ce langage invisible qui passe par la terre, on se ressent, quand l'un est mal, l'autre le sait, etc. etc. Donc ça a pu aussi aider à peaufiner le spectacle.
Donc en effet, Thibaut, tu informais qu'il était question de revisiter aussi cette pratique du drag king. Pouvez-vous nous présenter son origine, son histoire et ses résonances actuelles?
Le drag king, moi je suis un homme, donc je ne fais pas forcément de drag king, et j'ai pas non plus d'expérience en tant que drag queen non plus. Après, c'est des univers que je côtoie par affinité et par goût. Mais sinon, le drag est né dans les communautés LGBT et queer. Alors il y a différentes histoires, différentes sources. En tout cas pour le drag king, je sais pas, mais pour les drag queens, alors il y a une partie de l'histoire qui disent que des sources qui disent que ça vient du théâtre grec ou du théâtre shakespearien, où les hommes incarnaient les femmes. Donc il y a ce versant là de l'histoire, et il y a aussi une partie des historiens qui considèrent que ça vient plutôt de William Dorsey Swan, je crois, qui est un esclave noir qui a commencé à se travestir en femme pour divertir les autres esclaves dans les champs de coton. Et donc voilà. Et après, il y a sûrement d'autres source. Et donc après, c'est une pratique qui s'est développée dans les clubs, ouais, surtout, et dans le milieu underground queer.
Comme on a voulu travailler sur la masculinité, on a choisi le drag king parce que c'était une pratique qui exacerbait les comportements masculins. Voyez, et du coup, on se disait comment chercher la masculinité. Pour la trouver, il faut la pousser peut-être à l'extrême. Et essayer peut-être de garder ce qui nous plaît et à côté enlever ce qui est moins intéressant. Donc le drag king comme le drag queen, donc des pratiques que moi et Mina ont pratiqué.
Ouais, je me permets de rajouter que le drag consiste dans un cas comme dans l'autre, que ce soit drag king ou drag queen, à performer le genre soit masculin ou féminin. Et du coup, dans la pièce, on s'est plus concentré sur performer le genre masculin, tout en étant attentif à toute la palette. Donc la masculinité soit hyper virile et des masculinités un peu plus ambiguës, plus proches.
De la bromance.
De la bromance.
On a aussi travaillé sur la bromance, donc sur, sur cette limite entre, entre une amitié entre hommes qui part en romance, alors, que, alors qu'à la base, c'était pas prévu. Enfin, c'est, on a voulu travailler sur l'ambiguïté aussi, que ce soit du genre ou du corps, ou du, voilà, l'ambiguïté.
Quel retour, le fait de l'avoir joué en extérieur, c'est la question du festival notamment.
Bah, c'est une bonne question parce que c'est une première. C'est une première pour moi. Il a fallu s'adapter et c'était une très bonne expérience parce qu'au final, jouer dehors, ça amène autre chose. Ça amène des incidents, ça amène une relation avec l'extérieur, comme pour François avec les oiseaux. Ces moments de silence ne sont jamais en vrai silence. Au final, on est accompagné par les oiseaux, par la nature, par le vent. Et donc, ça peut aussi nourrir en même temps notre pratique à nous. Et donc, franchement, c'est une expérience très, très, très chouette. Moi, j'ai adoré. Mmh.
Donc Dioscure était présenté pour la première fois en extérieur.
Absolument.
Comment envisagez-vous le rapport in situ pour une pièce qui a été plutôt pensée pour une boîte noire? Donc une boîte noire, c'est-à-dire plutôt l'endroit du théâtre.
Déjà, il n'y a pas de lumière. Donc, évidemment, il y a pas mal de choses qui se basaient sur les lumières, parce que la pièce a été créée aussi avec Anthony Merlot, qui avait construit les lumières autour des costumes qu'ils avaient choisis avec Martha, donc sur les couleurs pastel. Donc, évidemment, il y a tout un tas d'effets qui ne sont plus là et qu'il faut recréer différemment. Donc, c'est comme ça, par exemple, qui a surgi Isadora Duncan à la place. Donc ça s'est improvisé 2 heures avant le spectacle. On est allé acheter une robe plissée soleil. On a trouvé une jarre en bois. Latifa nous a amené des pétales de rose. Et tout d'un coup, l'iris lumineux de la fin qui crée une sorte de plasma un peu de liquide amniotique a été remplacé par une pluie de pétales d'une Isadora flamenca.
Vous avez aussi proposé un atelier voguing vendredi après-midi au château de Combourg avec donc Martha, Thibaut et Ben ici présents. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter cette pratique-là et comment aussi elle nourrit l'endroit de la création ?
Eh bien, le voguing, déjà, pour commencer, c'est une danse qui est née dans les années 50-60 à New York, donc dans les clubs homosexuels, donc de Harlem, plus précisément. C'est une danse qui a été créée par les personnes queer et afro-américaines, des femmes transgenres, etc. Et ça faisait partie des choses qui nous liaient, moi et Mina, et sur lesquelles on voulait créer un langage, un spectacle. Que dire de plus ?
Du coup, la pièce a été composée à partir de ce vocabulaire-là, mm-hmm. beaucoup du voguing, ou du disco aussi notamment, et de la pratique du lip-sync. C'est vraiment les trois éléments majeurs qu'on retrouve dans la chorégraphie.
Très bien. Je t'en prie, Margot.
Et pour finir, quel est le futur de cette pièce et les dates à venir ?
On ne sait pas trop, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de date confirmée. Nous, c'est sûr que l'expérience en jardin, c'était presque les Dioscures qui rentraient à la maison. Parce que ça, c'était une intuition aussi de Latifa, on la remercie pour ça. Il était créé en salle, mais finalement...
Non, il a carrément sa place en extérieur.
Ouais, et ça, donc possiblement, on a peut-être envie de la tourner en jardin. Il y a une tournée de pré-achat d'abord en France, avec évidemment toujours les coproducteurs, quelques festivals. Ensuite, il y a eu une deuxième vie déjà avec Thibaut, qui a fait toujours plutôt la tournée internationale. Donc on a fait Slovénie, plusieurs dates en Espagne, en Italie. Et là, peut-être, c'est la troisième partie... En jardin,
en extérieur.
À suivre.
À suivre absolument.
Eh bien, merci à vous
merci beaucoup
d'être venu nous présenter vos différents spectacles. Je le rappelle, les spectacles de Pierre Benjamin Nantel et Olga Maté avec Paysage Caviardé. Merci à vous d'être venu nous présenter ce travail, François Chéniaud et Aymeric Hénaud pour Mirliton et puis Eben. Eben et Thibaut Michel et Nicolas Cadet d'être venu nous présenter ce spectacle Dioscur que vous avez pu jouer hier à Combourg. Nous arrivons à la fin de cette émission de Résonance. Margot, un petit mot sur le festival notamment, à suivre parce que le festival c'est durant l'année aussi, il y a tout un volet d'ateliers.
Alors en effet, il y a un volet de projet d'éducation artistique et culturelle à l'année sur le territoire. À venir, un nouveau projet en 2026 avec deux artistes. Erwan Lermenier qui est musicien, clarinettiste et qui fait de la musique verte, musique buissonnière. Alexis Edouin qui est danseur et chorégraphe, donc tous deux qui seront invités à l'école maternelle et primaire de Cugin pour un nouveau cycle. Et par ailleurs, nous vous invitons en 2026 pour la 15e édition anniversaire du festival Extension Sauvage. Et enfin, dans quelques instants, le spectacle qui vient clôturer cette dernière journée, El Adaptador de Marco Berrettini et Nastasia Tanner.
Très bien. Merci Margot pour cette présentation. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. C'était Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Merci à tous les artistes, à toute l'équipe du festival de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli l'émission et Radio Univers sur les ondes. Eh bien, vous pourrez retrouver sur le site internet le podcast de cette émission, le www.radio-univers.com. Salut.